Chapitre 25e, Mrs. Proudie engage une lutte dans laquelle elle n'a pas le dessus. Il y avait à peine une heure que Mrs. Proudie avait quitté triomphante l'appartement de son époux, et telle était l'énergie de son courage qu'elle y retournait maintenant ardente pour une nouvelle lutte. Elle était vivement irritée de ce qu'elle croyait être de la duplicité chez son mari. Il lui avait fait une promesse si formelle au sujet de l'hospice, il lui avait si pleinement abandonné la victoire. Mrs. Proudie sentait que si chaque affaire devait être ainsi discutée et remise en question deux ou trois fois, gouverner le diocèse serait une tâche trop lourde pour ses forces. Sans frapper à la porte, elle entra d'un pas rapide dans la chambre de son époux, qu'elle trouva assis devant son bureau, en face de M. Slope. Entre ses doigts était la lettre qu'il avait écrite en sa présence à l'archevêque, et elle était ouverte. Oui, il avait violé le sceau qui aurait dû lui être sacré, depuis qu'elle-même avait approuvé le contenu de la lettre. Ils étaient là, assis, dans un sérieux entretien, et il était évident que la question de l'invitation de l'archevêque avait de nouveau été discutée entre eux, après qu'elle avait déjà été débattue devant elle et décidée en conformité à ses désirs. M. Slope se leva et fit un léger salut. Les deux rivaux se regardèrent bien en face et comprirent que les hostilités étaient ouvertes. « Qu'est-ce que c'est que cette affaire à propos de M. Quiverful ?» dit-elle en se plantant devant le bureau. M. Slope ne laissa pas à l'évêque le temps de répondre. « Je suis allé à Pellingdale ce matin, » dit-il, « et j'ai vu M. Quiverful. M. Quiverful a abandonné toute prétention à l'hospice parce qu'il sait que M. Harding désire reprendre son ancienne situation. Dans ces circonstances, j'ai fortement conseillé à sa seigneurie de nommer M. Harding. « M. Quiverful n'a rien abandonné, » dit la dame, d'une voix impérieuse. « La parole de sa seigneurie a été engagée vis-à-vis de lui, il faut y faire honneur. » L'évêque demeurait silencieux. Il désirait vivement faire mordre la poussière à son tyran. Son nouvel allié lui avait affirmé que rien n'était plus aisé. Cet allié, il l'avait là, à ses côtés, prêt à le soutenir, et pourtant le courage lui manquait. Il est si difficile de vaincre quand on voit son adversaire entouré du prestige de ses triomphes antérieurs. Il est si difficile au coq qui a été battu hors de son terrain de rappeler son courage et de reprendre fièrement sa place sur son fumier. « Peut-être n'aurais-je pas dû intervenir, » dit M. Slope, « et pourtant... »« Assurément, vous ne l'auriez pas dû, » dit la dame, furieuse. « Et pourtant, » continua M. Slope en négligeant l'interruption, « j'ai cru que le devoir m'ordonnait impérieusement de recommander à la considération de sa seigneurie les droits de M. Harding. »« M. Harding aurait dû savoir ce qu'il voulait, » dit la dame. « Si M. Harding n'est pas replacé à l'hospice, » sa seigneurie sera fortement blâmée non seulement dans le diocèse, mais dans le pays. De plus, à considérer les choses de plus haut, sa seigneurie, si je comprends bien, estime qu'il est son devoir de donner satisfaction au désir d'un aussi digne homme, d'un aussi bon prêtre que M. Harding. Et que deviendront l'école du dimanche et les offices du dimanche à l'hospice ? Demanda Mrs. Proudie avec une sorte de ricanement. « Il paraît que M. Harding ne fait aucune objection contre l'école du dimanche, » dit M. Slope. « Quant aux offices à célébrer à l'hospice, on en discutera l'opportunité et les moyens après sa nomination. S'il en fait l'objet d'un refus définitif, eh bien alors il nous faudra bien y renoncer. »« Vous avez, il me semble, le cœur bien léger, M. Slope, quand il s'agit de choses si importantes. »« Je serais bien loin d'avoir le cœur léger, » répliqua-t-il, « si une parole ou un acte de moi devait pousser l'évêque à une décision inique. » Dans la question qui nous occupe, il est clair que dans l'entretien que j'ai eu avec M. Harding, je l'ai mal compris. « Et il est également clair que vous avez mal compris M. Quiverful, » dit-elle au paroxysme de la colère. « Quel besoin aviez-vous d'avoir ces entrevues ? Qui a désiré que vous allassiez voir M. Quiverful ce matin ? Qui vous a donné mission d'arranger cette affaire ? Me répondrez-vous, monsieur ? Qui vous a envoyé ce matin chez M. Quiverful ? » Il y eut un long silence. M. Slope s'est élevé de sa chaise et se tenait debout, la main posée sur le dossier. Son air, d'abord solennel, était devenu sombre. Mrs. Proudie demeurait debout à l'une des extrémités du bureau qu'elle frappait de la main, à chaque question, avec une vigueur au-dessus de son sexe. L'évêque, assis dans son fauteuil, tournait ses pouces, regardant tantôt sa femme, tantôt son chapelain, selon que l'un ou l'autre assénait à l'autre un horion. Combien il eût été confortable pour lui de les voir combattre ainsi, sans avoir à intervenir de sa personne, de les voir combattre jusqu'à l'anéantissement de l'un par l'autre. Au moins alors, saurait-il par quelle influence il devrait se laisser conduire. Quelle que fût l'issue de la lutte, il y gagnerait, lui, le repos. Mais si l'évêque désirait la victoire pour l'un des deux combattants, ce n'était peut-être pas pour le succès de sa femme qu'il formait des vœux. « Me répondrez-vous, monsieur ? » répéta-t-elle. « Qui vous a chargé de voir M. Quiverful ce matin ? Avez-vous, oui ou non, l'intention de me répondre ?»« Je crois, Mrs. Proudie, que dans les circonstances présentes, il vaut mieux que je ne réponde pas à une semblable question, » dit M. Slope. M. Slope avait à sa disposition tout un répertoire de tons. Il en prit un qui était d'une gravité émue. « Quelqu'un vous a-t-il envoyé, monsieur ?»« Mrs. Proudie, » dit M. Slope, « je n'ignore pas combien je dois à votre bienveillance. Je sais aussi ce que la courtoisie exige d'un gentleman à l'égard d'une femme. Mais au-delà de ces deux considérations, il en est d'autres, d'après lesquelles vous me pardonnerez, je l'espère, de diriger ma conduite. En cette affaire, sa seigneurie est mon seul juge. Lui seul a le droit de me poser des questions. À lui seul, j'accepte de répondre. Il a approuvé mes actes, et vous m'excuserez si je dis qu'en dehors de cette approbation et de celle de ma conscience, il n'en est pas une seule que j'éprouve le besoin de recevoir. » Jamais semblable parole n'avait résonné aux oreilles de Mrs. Proudie. Oui, la chose était bien claire. La révolte, et une révolte préméditée, était au camp. Il y avait à peine 12 mois que l'évêque était sur le siège épiscopal, et déjà la rébellion avait dressé dans le palais sa tête hideuse. L'anarchie et la confusion n'allaient pas tarder à naître, si elle ne prenait des mesures immédiates et énergiques pour étouffer dans le germe la conspiration qu'elle venait de découvrir. « Monsieur Slope, » dit-elle d'une voix lente et digne, bien différente de celle qu'elle avait prise jusqu'alors, « Monsieur Slope, je vous serai obligé de quitter cette pièce. Je désire parler à sa seigneurie seule. » Monsieur Slope comprit ainsi que tout allait dépendre de la présente entrevue. Que Mrs. Proudie reprit son influence antérieure, c'était pour lui une servitude complète et éternelle. Le moment actuel était d'ailleurs propice pour la révolte. L'évêque s'était manifestement compromis en brisant le cachet de la réponse à l'archevêque. Il s'était laissé persuader par M. Slope que nulle considération ne devait l'amener à refuser l'invitation de l'archevêque. La crainte et l'espérance devaient le pousser à un parti décisif. Il avait accepté le désistement de M. Quiverful. Il devait redouter d'avoir à discuter de nouveau cette affaire avec sa femme. M. Slope avait pu le déterminer une fois, à affirmer sa volonté. Il ne s'agissait plus que de le soutenir dans cette disposition jusqu'au moment où il verrait lui-même que la victoire, à tout prendre, n'était pas si difficile à remporter. Le moment était donc venu de vaincre ou de mourir. C'était maintenant qu'il s'agissait pour M. Slope de devenir le maître du diocèse ou de résigner son emploi pour aller chercher fortune ailleurs. Il avait une vue nette de la situation. Après les paroles échangées, il n'y avait plus de compromis possible entre lui et Mrs. Proudie, qu'il quitta la pièce sur son injonction et laissa l'évêque entre ses mains, et il pouvait sur l'heure faire sa malle et dire adieu aux honneurs épiscopaux, à Mrs. Bold et à la signora Neroni. Et pourtant il ne lui était pas facile de rester là, après avoir été invité par une dame à se retirer, et de continuer à rester entière avec un époux et sa femme, quand celle-ci avait exprimé le désir d'un tête-à-tête avec son mari. « Monsieur Slope, » répéta-t-elle, « je désire être seule avec sa seigneurie. » « Sa seigneurie m'a fait venir pour m'entretenir d'importantes affaires diocésaines, » dit M. Slope, lançant au docteur Proudie un coup d'œil inquiet. Il sentait qu'il devait se confier en quelque chose à l'évêque, mais que pourtant l'aide qu'il espérait était bien incertaine et bien précaire. « Il me paraît impossible que je le quitte en ce moment. »« Osez-vous bien me résister ainsi, ingrat que vous êtes ? My Lord, me ferez-vous la faveur de prier M. Slope de quitter la pièce ?» Mylord se gratta la tête, mais pour le moment ne dit rien. M. Slope n'attendait guère plus de lui et pour lui, il faut le dire, ce silence était déjà un commencement d'émancipation. « My lord, » dit la dame, « qui devra quitter la pièce, M. Slope ou moi ?» Ici, Mrs. Proudie fit un faux pas. Elle ne devait pas faire allusion à une retraite possible de sa part. Elle ne devait pas exprimer l'idée que l'injonction, faite par elle à M. Slope de quitter la pièce, pût ne pas être immédiatement suivie d'effet. À cette question de sa femme, l'évêque répondit naturellement lui-même que s'il fallait que quelqu'un quittât la pièce, ce pouvait être aussi bien Mrs. Proudie que M. Slope. Voilà ce qui se passa au-dedans de lui. Mais au dehors, il se contenta de se gratter de nouveau la tête et de recommencer à tourner ses pouces. Mrs. Proudie bouillait de colère. Hélas, si elle avait pu se dominer, comme le faisait son adversaire, elle eût ajouté une nouvelle victoire à ses triomphes antérieurs. Mais le courroux la mit hors d'elle-même et ce fut sa perte. « My lord, me ferez-vous l'honneur d'une réponse ?» L'évêque rompit enfin le silence et montra qu'il venait de passer dans le camp slopéiste. « C'est que ma chère, M. Slope et moi, nous sommes très occupés. » Ce fut tout. Que fallait-il de plus ? M. Slope était allé au combat. Il avait supporté la poussière de la lutte et la chaleur du jour. Il avait soutenu le choc furieux de l'ennemi et avait remporté la victoire. Combien le succès est aisé pour ceux qui savent être constants avec eux-mêmes. M. Slope vit sur le champ qu'il l'emportait sur toute la ligne, et il tourna sur la dame terrassée un regard de triomphe que celle-ci n'oublia ni ne lui pardonna de sa vie. Ici c'est lui qui eut tort. Il aurait dû la regarder avec humilité, et par l'expression timide et suppliante de ses yeux, désarmer sa colère. Il eût dû, par ce regard, lui dire qu'il implorait le pardon de son succès et qu'il espérait ce pardon. Car s'il avait lutté, il avait été contraint par le devoir. Peut-être eût-il ainsi fléchi ce cœur impérieux et préparé les voies à une réconciliation. Mais M. Slope voulait un pouvoir absolu. Dans son inexpérience de la vie, il oubliait qu'il ne pouvait empêcher ce pauvre évêque tremblant de demeurer lié à la femme qui le dominait. Il ne pouvait les séparer au lit et à la table. Ne devait-elle pas continuer d'être la chair de sa chair, l'os de ses os? Sans doute, M. Slope n'avait pas lâché pied. Il voyait son ennemi ignominieusement chassé de la chambre, mais pourrait-il être là quand les rideaux de ce lit seraient tirés? Pourrait-il imposer sa présence quand l'épouse désirait parler à Mylord seul? Dans le moment, le triomphe de M. Slope fut complet, car Mrs. Proudie sortit sans proférer une parole et sans oublier de fermer avec fracas la porte derrière elle. Les deux nouveaux alliés eurent ensuite une conférence tout à fait privée, dans laquelle furent échangés des propos que M. Slope s'étonna lui-même de tenir et l'évêque d'entendre, et ce fut d'ailleurs à leur satisfaction réciproque. Il n'y avait plus désormais à prendre de précautions oratoires. Le chapelain dit nettement à l'évêque qu'on le considérait comme un instrument docile entre les mains de sa femme, que sa considération et son autorité dans le diocèse en souffraient, qu'il se créerait à lui-même une situation très délicate s'il permettait à Mrs. Proudie de s'ingérer dans des affaires auxquelles une femme devait rester étrangère, qu'enfin il encourrait quelque mépris s'il ne secouait le joug sous lequel il gémissait. L'évêque, d'abord, toussa, annonna, et essaya de nier la vérité de ce qu'on lui disait. Mais il ne soutint pas longtemps ces dénégations mal assurées. Son silence montra bientôt qu'il se résignait à subir l'ascendant de son chapelain, et il s'engagea à changer de conduite avec l'assistance de M. Slope. M. Slope colora habilement la politique qu'il venait de faire triompher. « Il lui en coûtait, dit-il, d'être en opposition avec une dame qui avait toujours été sa protectrice, qui lui avait montré de toute façon des sentiments amicaux et l'avait fait connaître à l'évêque. Mais son devoir était impératif. Il occupait une situation de confiance et était immédiatement et spécialement attaché à la personne de l'évêque. Sa conscience l'obligeait à ne considérer que les intérêts de l'évêque. C'est ce sentiment qu'il avait décidé à parler. L'évêque prit ses paroles pour ce qu'elles valaient et M. Slope n'en demandait pas davantage. Elle dorait la pilule que M. Slope avait à faire avaler, et dans le fait, l'évêque la trouva moins amère que les autres pilules que sa femme lui administrait de force depuis si longtemps. Mylord reçut immédiatement sa récompense comme un enfant bien sage. On lui dit d'écrire et il écrivit sur le champ à l'archevêque une nouvelle lettre par laquelle il acceptait l'invitation de sa grâce. Cette lettre, M. Slope, plus avisé que Mrs. Proudie, la prit lui-même pour la mettre à la poste de ses propres mains. Il employa la prière, les cajoleries, les menaces même, pour lui faire écrire aussi une lettre à M. Harding. Mais l'évêque, temporairement émancipé de la tutelle de sa femme, ne voulait pas accepter une autre servitude. Il répondit, et avec raison, qu'une semblable proposition devait revêtir une forme officielle, qu'auparavant il désirait voir M. Harding. M. Slope pouvait inviter M. Harding à se présenter au palais. C'était déjà beaucoup. M. Slope alla donc jeter la lettre à la poste pour poursuivre ensuite d'autres entreprises dont il sera question dans les chapitres suivants. Mrs. Proudie, après s'être donné la satisfaction de fermer avec violence la porte du cabinet de son mari, n'alla pas retrouver sur le champ Mrs. Quiverful. Tout d'abord, elle ne se sentit pas le courage de la revoir. Il lui faudrait avouer qu'elle avait été battue, que le diadème était tombé de son front, le sceptre de sa main. Non, elle lui ferait annoncer une lettre pour le lendemain ou le surlendemain. Cette résolution prise, elle se retira dans sa chambre où l'influence du lieu ranima son courage. Tel Achille bouillait d'ardeur à la vue de son armure, tel Don Quichotte sentait la vigueur renaître dans ses membres quand il saisissait sa lance, tel Mrs. Proudie vit fleurir pour elle de nouveaux lauriers quand ses regards tombèrent sur le lit conjugal. Elle descendit la mine haute et l'air dégagé. La scène dans le cabinet de l'évêque avait duré plus de temps que nous n'en avons mis à la raconter. Peut-être n'avons-nous pas rapporté la conversation dans tout le détail. Quoi qu'il en soit, Mrs. Quiverful commençait à perdre patience et à penser que le fermier Subsoil se fatiguerait de l'attendre, quand Mrs. Proudie revint enfin. Qui pourrait dire les battements de ce cœur maternel, tandis que la suppliante cherchait à voir écrite sur le visage de la grande dame la promesse d'une maison, d'un revenu, d'une vie confortable, ou la menace d'une éternelle pauvreté? Pauvre épouse, pauvre mère, quelle déception l'attendait. « Mrs. Quiverful, dit la dame avec sévérité, et sans s'asseoir, j'apprends que votre mari a montré dans cette affaire beaucoup de faiblesse et de maladresse. » Mrs. Quiverful se leva immédiatement, pensant que ce serait manquer de respect que de demeurer assise en présence de la femme de l'évêque se tenant debout. Mais sur l'invitation qu'elle a reçue, elle dut se rasseoir. On considère généralement comme un manque de politesse, chez un homme, de rester assis quand un autre est debout devant lui. Les mêmes lois règlent sans doute la conduite des femmes. Peut-être cependant est-ce, chez un homme puissant, une manière de marquer sa supériorité que de faire asseoir un visiteur tandis que l'on se tient debout soi-même. Cette dérogation aux règles de la bonne éducation a un sens que l'on peut exprimer ainsi. La courtoisie, selon le monde, exige que je vous offre un siège. Si je ne le faisais pas, je me ferais accuser de hauteur et d'impolitesse. J'obéis aux conventions mondaines, mais je ne veux pas me mettre vis-à-vis de vous sur un pied d'égalité. Vous pouvez vous asseoir, moi, je ne m'assierai pas avec vous. » Tel était le sentiment qui animait Mrs. Proudie. Mrs. Quiverful, trop inquiète, trop agitée pour s'en rendre un compte bien exact, se sentit pourtant mal à l'aise. Une seconde fois, elle essaya de se lever. « Restez assise, je vous en prie, Mrs. Quiverful. Votre mari, je vous le répète, a été faible et maladroit. On ne peut aider des gens qui ne savent pas s'aider eux-mêmes. Je crains bien de ne pouvoir rien pour vous dans cette affaire. »«
Oh, Mrs. Proudie, ne me dites pas cela !»
dit la pauvre femme en bondissant.
« Je vous en prie, restez assise, Mrs. Quiverful. Je crains bien de ne rien pouvoir pour vous dans cette affaire. Votre mari, je ne puis m'expliquer pourquoi, est allé renoncer à un emploi que j'avais le pouvoir de lui offrir.
Naturellement, l'évêque désire que ses prêtres sachent ce qu'ils veulent.
Que fera-t-il? Quelle sera notre décision définitive? Je ne puis le dire.
Sachant combien votre famille est nombreuse.
14 enfants, Mrs. Proudie, 14! Et à peine assez de pain pour les nourrir.
C'est dur pour les enfants d'un prêtre, c'est dur pour un homme qui a toujours accompli avec conscience son devoir. » D'elle-même, elle ne dit pas un mot, mais les larmes inondèrent ses joues, sur lesquelles la poussière d'août avait laissé ses traces. Mrs. Proudie n'avait pas été représentée jusqu'ici comme une femme aimable. Nous n'avons pas voulu donner d'elle à nos lecteurs une impression favorable.
mais elle n'était pas absolument mauvaise. Sous ce corset raide et dur, il y avait un cœur, de dimension restreinte peut-être, et d'un accès difficile. Mrs. Quiverful sut pourtant en trouver le chemin, et Mrs. Proudie montra qu'elle était une femme. Que ce fussent les 14 enfants avec leurs pains secs et leurs vêtements rapiécés, ou les mérites d'un père respectable, ou les larmes mêlées à la poussière sur les joues de la mère, nous ne le dirons pas, mais Mrs. Proudie fut touchée. Elle ne le montra pas comme l'auraient fait d'autres femmes. Elle ne donna pas à Mrs. Quiverful de l'eau de Cologne. Elle ne lui fit pas servir un verre de vin. Elle ne lui fit pas servir un verre de vin. Elle ne lui offrit pas à sa toilette une brosse, un peigne, une serviette et de l'eau. Elle ne chercha pas à la ranimer par des paroles encourageantes, non. Elle frappa sa table de la main et déclara qu'elle n'acceptait pas cela. Elle voulait dire qu'elle n'acceptait pas que la place promise à M. Quiverful lui fût ravie par suite de sa propre faiblesse et par l'habileté insinuante de M. Slope. « Pourquoi votre mari a-t-il été assez simple ?» dit-elle, descendant alors de ses grands chevaux et s'asseyant familièrement près de la pauvre femme. « Pour donner dans le panneau que cet homme lui tendait, sans cette maladresse, votre entrée à l'hospice était assurée. » La pauvre Mrs. Quiverful ne se faisait pas faute de reprocher à son mari sa timidité et sa mollesse, et peut-être ne parlait-elle pas toujours de lui avec assez de respect devant ses enfants. Mais il lui déplut de l'entendre blâmer par une personne étrangère, et elle commença à prendre sa défense. Elle expliqua que, naturellement, M. Quiverful avait pris M. Slope pour un émissaire de Mrs. Proudie elle-même, que l'on considérait M. Slope comme son protégé et son confident, qu'en conséquence, M. Quiverful aurait cru manquer de respect envers elle, en mettant en doute ce que M. Slope lui disait. Décidément adoucie par ses explications, Mrs. Proudie congédia Mrs. Quiverful en lui assurant qu'elle emploierait tout son pouvoir, toute son influence, à assurer la nomination de M. Quiverful. En répétant le mot « assuré », elle pensa à l'évêque dans son bonnet de nuit, et les lèvres pincées secoua légèrement la tête. Mrs. Quiverful retourna chez elle dans la voiture du fermier, non point peut-être le cœur tranquille, mais satisfaite d'avoir fait une visite qui pouvait produire de bons résultats.